DW. Info Matin.
Il est 7h en temps universel, 8h ici à Bonn. Bonjour et bienvenue à Info Matin avec Fréjus Kenom et Eric Topona. Bonjour Fréjus.
Bonjour Eric Topona, bonjour à toutes et à tous.
Au sommaire de cette demi-heure d'actualité africaine.
De nouvelles manifestations aujourd'hui en Guinée. La récente libération de prisonniers politiques n'a pas apaisé la colère de l'opposition, toujours en lutte contre le maintien au pouvoir d'Alpha Condé.
On doit dialoguer, donc nous devons tous ensemble être autour d'une même table, discuter des problèmes de ce pays. Et l'islam interdit tout ce qui est violence, tout ce qui est injustice.
Aujourd'hui, 10 décembre, c'est la journée mondiale des droits de l'homme. Illustration dans ce journal des mauvaises conditions carcérales à Lubumbashi, c'est dans le sud-est de la RDC.
Également au programme d'Infomatin, l'actualité sportive avec Ali Farhat. Bonjour Ali.
Bonjour à toutes et à tous. La sanction est tombée hier à Lausanne en Suisse. L'Agence mondiale antidopage a rendu son verdict. La Russie est suspendue de toute compétition sportive à l'échelle mondiale et ce pour les 4 années à suivre. Cela ne concerne pas l'Euro 2020 ni la finale de la Ligue des Champions qui sera jouée à Saint-Pétersbourg.
Et dans l'immédiat, Fréjus Kenom, le résumé de l'actualité internationale en 4 minutes.
Suite à des pressions de la Corée du Nord, une session du Conseil de sécurité de l'ONU qui devait avoir lieu aujourd'hui a été annulée. La dite session devrait porter sur la situation désastreuse des droits de l'homme en Corée du Nord en ce 10 décembre, journée mondiale des droits de l'homme. Certaines sources diplomatiques indiquent que c'est l'administration américaine qui a empêché la convocation de cette réunion en vue d'apaiser les tensions avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. C'est Washington qui préside le Conseil de sécurité pendant tout ce mois de décembre. Pyongyang avait en effet averti dans un courrier que la session prévue serait une sérieuse provocation qui entraînerait une réaction forte.
On en parlait hier dans Info Matin, Fréjus. Le sommet quadripartite d'hier à Paris s'est soldé sur l'espoir d'un cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine.
Oui, la Russie et l'Ukraine se proposent d'ici à la fin de l'année d'observer un cessez-le-feu intégral dans l'est de l'Ukraine. En présence du président français Emmanuel Macron et de la chancelière allemande Angela Merkel, les dirigeants russes et ukrainiens se sont aussi accordés sur le principe d'un retrait de troupes de la ligne de front et des échanges de prisonniers. Des points de désaccord demeurent cependant et feront l'objet d'une nouvelle réunion dans les 4 prochains mois. Écoutez le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
J'ai soulevé la préoccupation qu'il faut que mon pays reprenne le contrôle sur la frontière entre l'est de l'Ukraine et la Russie avant les élections locales. Je pense avoir fourni assez d'arguments, mais pour le moment, nous avons des points de vue différents sur ce sujet, et ce n'est pas un hasard que nous devions nous retrouver dans quelques mois, encore et toujours dans le format de Normandie. Nous sommes obligés de trouver un accord pour pouvoir avancer.
Aux États-Unis, un rapport contredit les accusations contre les enquêteurs dans l'affaire russe.
Oui, les enquêtes menées par la police fédérale américaine, FBI, contre l'équipe de campagne de Donald Trump n'étaient pas politiquement motivées. C'est la conclusion du rapport de l'inspecteur général du ministère de la Justice. Aucune preuve n'a été trouvée sur une possible manipulation. Mais le président américain continue de considérer les enquêtes comme étant une honte. Ces enquêtes consistaient à vérifier si, durant la campagne électorale en 2016, il y a eu des interférences de la Russie au profit du camp républicain de Donald Trump. Des milliers de Hongrois protestent contre un projet de loi pour régir le secteur de la culture. D'après le texte initié par le gouvernement populiste de Viktor Orban, les infrastructures culturelles devraient passer sous le contrôle strict de l'État. Ainsi, l'octroi de fonds publics pour les activités de théâtre devrait donner au gouvernement un droit de regard sur la sélection des metteurs en scène. Les adversaires de ce projet de loi reprochent au pouvoir hongrois une intrusion dans le milieu de l'art. Le projet devrait malgré tout être validé demain mercredi par le Parlement.
Et puis la chaleur et le vent continuent d'alimenter les feux de brousse en Australie.
La métropole de Sydney est recouverte de fumée, ce qui fait redouter à l'agence de la météorologie une dégradation de la visibilité et une baisse de qualité de l'air dans les prochains jours. Aucune amélioration n'est en vue. Les températures devraient dépasser les 40 degrés. Environ 2000 sapeurs-pompiers sont déployés pour éteindre 80 foyers d'incendie dans le pays. En Australie, les feux de forêt débutent normalement en décembre, mais cette année, les premiers incendies se sont déclarés dès le mois d'octobre.
Voilà, Fréjus Kenhomme pour la présentation des nouvelles du monde. La suite du journal.
DW.
On l'annonçait dans le sommaire, nouvelle manifestation en Guinée à l'appel du Front National pour la Défense de la Constitution, en dépit de la récente libération de plusieurs de ses membres.
Dans le même temps, la majorité au pouvoir tient toujours à son projet de référendum pour l'adoption d'une nouvelle constitution, une situation qui bloque les activités socio-économiques du pays.
Oui, et c'est pourquoi les leaders religieux appellent les acteurs politiques à privilégier d'abord l'intérêt supérieur de la nation. On retrouve pour en savoir plus Bangali Kondé, notre correspondant à Conakry.
Le Front National pour la Défense de la Constitution organise ce mardi sa 6e manifestation consécutive dans les rues de Conakry. Des manifestations qui ont fait une dizaine de morts depuis leur lancement il y a près de 2 mois. La semaine dernière, plusieurs membres du FNDC arrêtés puis jugés ont été relaxés par la cour d'appel de Conakry. Selon Oumar Sylla, alias Fonike Mangue, le président guinéen Alpha Condé doit renoncer à son projet de 3e mandat.
Nous serons toujours dans les rues. C'est la constitution qui nous permet, à son article 10. Alors c'est le lieu pour M. Alpha Condé de renoncer à ce projet de 3e mandat pour que toutes les choses rentrent en ordre, afin que nous puissions voir à partir du 21 décembre 2020 celui qui sera le nouveau président de la République de Guinée.
La CODENOC, Coalition démocratique pour la nouvelle constitution, soutient la mouvance présidentielle dans le processus d'adoption d'une nouvelle constitution. Alseni Makanera Kake est le porte-parole de la structure. Il estime que la seule alternative est d'aller au référendum pour départager les deux tendances.
En réalité, la politique, c'est l'opposition des idées. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous avez la possibilité de trouver une solution idoine. Lorsqu'il y a deux groupes, on a la possibilité de les départager par un référendum.
Dans ce contexte de tension, des leaders religieux ont décidé de s'impliquer afin de tenter d'obtenir une décrispation. Abdul Karim Diallo, analyste islamologue, demande aux politiques de sauvegarder la paix dans le pays.
On doit dialoguer et l'islam n'aime pas le désordre et l'anarchie. Donc nous devons tous ensemble être autour d'une même table, discuter des problèmes de ce pays. Et l'islam interdit tout ce qui est violence, tout ce qui est injustice.
Rappelons que deux anciens chefs d'État d'Afrique de l'Ouest ont entamé depuis hier à Conakry une visite de 5 jours à l'initiative du National Démocrate Institute NDI et la Fondation Kofi Annan. Il s'agit de l'ancien président béninois Nicéphore Dieudonné Songlo et celui du Nigeria Goodluck Jonathan. Ils ont pour mission d'évaluer les préparatifs des élections législatives prévues pour février 2020 et surtout d'aider à calmer la tension perceptible dans le pays. Bangali Kondé à Conakry pour la Deutsche Welle.
Les deux anciens présidents auxquels faisait allusion Bangali Kondé ont rencontré hier à Conakry des responsables des médias et plusieurs figures de la société civile.
Au Niger, la sous-secrétaire générale aux affaires humanitaires des Nations Unies, par ailleurs coordinatrice adjointe des secours d'urgence du bureau de la coordination des affaires humanitaires, est arrivée hier après-midi à Niamey.
Aussitôt arrivée dans la capitale nigérienne, Ursula Müller a été reçue en audience par le président Mahamadou Issoufou.
Et pendant son séjour, Ursula Müller aura des entretiens avec le Premier ministre et certains membres du gouvernement, de même que les représentants des agences des Nations Unies, des ONG et le corps diplomatique.
Ensuite, la sous-secrétaire générale aux affaires humanitaires des Nations Unies se rendra dans les régions de Diffa, Maradi et Tillabéri pour y rencontrer les personnes déplacées, estimées à plus de 180 000 et les réfugiés qui sont au nombre de 218 000 sur le territoire du Niger.
Selon nos informations, des consultants russes de Wagner ont été officiellement aperçus à Bamako au Mali.
La Russie, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, essaie de se frayer également une place dans un contexte sécuritaire marqué par une forte défiance contre la présence militaire française dans le pays.
Rendez-vous sur Facebook DW Afrique.
Info matin, 8h09 à Yaoundé au Cameroun. Au Cameroun, où on connaît depuis hier soir toutes les listes retenues pour les élections législatives et municipales du 9 février 2020.
Sur un total de 470 listes enregistrées par l'organe électoral Election Cameroun, 451 ont été validées, 451 listes ont été validées par l'instance en charge d'organiser les élections. Elisabeth Hassen est notre correspondante à Yaoundé.
Initialement prévu à 13h en temps universel, c'est finalement hier à 20h30 que Eno Abrahams Egbe, le président du Conseil électoral d'Elections Cameroun, s'est adressé à la presse nationale et internationale au siège de l'institution qu'il dirige. Étaient également présents les leaders des formations politiques qui ont déposé leur dossier de candidature. Pour les élections législatives, sur un total de 470 représentés par 35 partis politiques et enregistrés par ELECAM, 451 ont été validés par l'instance en charge d'organiser les élections. Sans surprise, le RDPC au pouvoir s'en tire avec une majorité écrasante. En ce qui concerne les élections municipales, sur les 489 listes présentées, 17 ont été rejetées. Le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir, s'en sort avec une majorité de représentativité dans 85 circonscriptions. Cependant, on note l'exclusion totale de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Le parti historique fondé le 10 avril 1948 par le leader anticolonialiste Ruben Umniobe a présenté deux listes pour la même élection au lieu d'une seule. Mais pour de nombreux analystes, le parti paye ainsi les querelles de leadership qui le minent. Le grand absent des prochaines joutes électorales reste le MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, de l'opposant Maurice Kamto qui a appelé le 25 novembre dernier à boycotter ce double scrutin. Les autres formations politiques, notamment le SDF, Social Democratic Front de Nijon Frundi et le Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale, participeront à ces élections. Le président de ce parti, Cabral Ibi, arrivé officiellement troisième lors de l'élection présidentielle d'octobre 2018, annonce déjà l'introduction de plusieurs recours pour protester contre le rejet de certaines des listes des candidats de son parti. Elisabeth Hassen, à Yaoundé, pour la Deutsche Welle.
Au Tchad, c'est ce midi en principe que le secrétaire général de la Convention tchadienne pour la défense des droits humains, Mahamat Nour Ahmad Ibedou, devra être auditionné par le juge en charge de son dossier.
Mahamat Nour Ahmad Ibedou, qui a été écroué à la prison d'Amsinéné à N'Djamena jeudi dernier, est accusé de meurtre et de complicité de meurtre.
Et selon nos informations, l'inculpation de M. Ibedou serait liée à la mort d'une adolescente de 14 ans, mort imputée à son petit-fils. Des accusations que conteste l'intéressé.
Le Tchad encore, la Cour suprême a ordonné, on le rappelle, hier, le maintien en détention de l'ancien Premier ministre Kalzebe Païmi Debe, interpellé depuis le 1er décembre dernier à N'Djamena.
En RD Congo, le Conseil de l'Union européenne a décidé hier de lever ses sanctions contre deux personnalités congolaises. Il s'agit de l'ancien porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, et l'ancien responsable de la sécurité intérieure et de l'Agence nationale des renseignements, Roger Kibeliza.
Écoutez la réaction de Lambert Mende, qui est depuis décembre 2018 député de la province du Sankuru dans le centre de la RDC. Il intervient au micro de Nafissa Amadou.
J'ignore jusqu'à aujourd'hui pourquoi j'ai pu figurer sur la liste des 14 personnes sanctionnées, ce qu'on me reprochait, puisqu'on ne me l'a jamais dit. On m'a privé de la possibilité d'exercer mes droits de la défense. On a ignoré le principe fondamentale de la présomption d'innocence, et donc tout cela me pousse à considérer que les choses ne se sont pas faites de la manière la plus correcte, et c'est vraiment regrettable.
Vous êtes soulagé quand même de ne plus figurer sur cette liste?
Je suis d'abord un patriote congolais, et je ne veux pas qu'on puisse considérer qu'on a eu la possibilité de me soulager au prix de la mise de mon pays sous une tutelle déguisée. Ce n'est pas possible. Je suis lumumbiste et je voudrais que ce pays soit réellement un pays indépendant, qu'il y ait une égalité souveraine entre les États, même si nous coopérons, mais qu'on ne puisse pas profiter de ce principe des sanctions soi-disant ciblées pour les prendre pour influencer sur la politique de notre pays, quels que soient ceux qui sont à la tête du pays aujourd'hui.
Voilà, donc Fréjus, c'était Lambert Mende, donc l'ancien porte-parole du gouvernement congolais.
Bien sûr. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale des droits de l'homme et nous allons rester en RDC pour parler des conditions carcérales jugées contraignantes.
Arrêté le 31 juillet 2017 pour avoir manifesté avec les mouvements pro-démocratie alors qu'il réclamait à la CENI la publication du calendrier électoral et l'organisation des élections, Maître Timothée Mbouya a été détenu jusqu'au 13 février 2018 et notre correspondant à Lubumbashi, Patrick Kassondé, est allé rencontrer l'activiste des droits humains.
On m'a arrêté, on m'a amené à la CASAPA sans document, sans mandat d'arrêt provisoire.
Timothée Mbouya a passé 6 mois à la CASAPA, l'un des plus grands centres pénitentiaires de la RDC. Il se souvient encore de sa première nuit en prison.
Extrêmement pénible. D'abord, nous sommes arrivés la nuit. Celui qui est venu nous accueillir, il nous a vraiment obligés de payer l'argent pour avoir un espace où passer nuit, pour avoir accès à une cellule plus ou moins passable. Il y a des gens qui payaient même de 2 000, de 3 000 dollars.
Pendant sa détention, ce défenseur de droits de l'homme a même assisté à des tortures.
J'ai moi-même été témoin de plusieurs actes de torture. Il y a des gens qui étaient torturés parce que le directeur de la prison ou parce que le capita est passé et que vous ne vous êtes pas levé. Il y a des gens qui étaient torturés à mort.
Manger est aussi un problème si l'on n'a pas de famille sur place à Lubumbashi.
Le gouvernement provincial envoie quelque chose comme nourriture, mais généralement cette nourriture-là est détournée par les agents. Et les peu de nourriture qui arrive jusqu'aux prisonniers, je ne vous surprendrai pas si je vous disais qu'il y a des gens là à la CASAPA qui mangent parfois 8 graines d'haricots par jour. Donc c'est vous dire que c'est effroyable. Quand vous allez là-bas, tous ceux qui n'ont pas de famille, ils souffrent péniblement. Mais ceux qui ont des familles ici sur place peuvent amener à manger. Mais pour que votre nourriture arrive jusque là où vous êtes, vous devez débourser de l'argent. Parce qu'il y a autant de barrières qui sont érigées en route. Vous devez payer 500 ici, vous devez payer 1000 francs par là. Et même quand elle vous parvient, vous n'allez pas l'utiliser seul parce que par solidarité, vous devez partager avec ceux qui n'en ont pas.
Le centre de santé de cette prison est non viable.
Il n'y a presque pas de médicaments. Vous avez un taux de mortalité assez élevé. Vous avez par exemple des latrines pour 300, 400 ou 500 personnes. Vous avez des gens qui sont obligés de se laver en plein air.
Si les femmes ont leur pavillon, les enfants, eux, sont en contact direct avec les adultes. Patrick Kassondé à Lubumbashi pour la Deutsche Welle.
En bref, c'est aujourd'hui que le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed reçoit le prix Nobel de la paix à Oslo, en Norvège.
L'attribution de ce prix Nobel ne fait pas l'unanimité alors que le pays est traversé par de fortes tensions ethniques et politiques.
En Algérie, la justice doit rendre ce mardi son verdict dans le procès pour corruption de 2 anciens premiers ministres de l'ère Bouteflika. Ils sont jugés avec d'autres anciens hauts dirigeants politiques et de grands patron du pays.
Info matin, il est 7h17 en temps universel.
DW. Le sport. Ali Fahad.
Ali, hier à Lausanne, en Suisse, l'Agence mondiale antidopage a rendu son verdict. La Russie est suspendue de toute compétition sportive à l'échelle mondiale, et ce, pour les 4 prochaines années.
Et c'est Craig Reedy, le président sortant de l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, qui l'a annoncé hier en conférence de presse. Les conséquences incluent le bannissement de la Russie pendant 4 ans des Jeux Olympiques, des Jeux Paralympiques et des Championnats du monde organisés par les signataires du code de l'Agence mondiale antidopage. Durant cette période, la Russie ne pourra organiser aucun de ces événements.
Oui, Ali Farad, cette décision n'est quand même pas vraiment une surprise.
Non, c'est ce qui était attendu après que le CRC, le comité de révision de la conformité, avait recommandé à l'AMA de sanctionner durement la Russie pour avoir falsifié des données concernant des athlètes dans les fichiers qui avaient été remis à l'Agence mondiale antidopage en début d'année. Pas de JO, ni en 2020, ni en 2022, donc pour la Russie. Pas de Coupe du monde, de football au Qatar non plus. La Russie peut participer aux qualifications, mais pas à la phase finale. Si des joueurs russes veulent y participer, ce sera sous bannière neutre. Idem pour les athlètes russes qui souhaitent participer aux Jeux Olympiques. Ce sera une bannière neutre ou rien.
En revanche, cette décision ne concerne pas les compétitions continentales.
Non, la Russie participera bien à l'Euro 2020 de football, par exemple, et Saint-Pétersbourg accueillera bien la finale de la Ligue des Champions en 2021. Néanmoins, pas sûr que la Russie accepte ces décisions sans broncher. Le Premier ministre russe Dmitri Medvedev espère que les instances concernées n'en resteront pas là.
Les décisions se répètent et concernent souvent des athlètes qui ont déjà été punis. Cela nous ramène vers le thème de l'hystérie anti-russe qui est en train de devenir une maladie chronique. Je pense que les organisations concernées, et j'entends par là les organisations russes dont c'est l'aire d'expertise, doivent trouver un moyen de s'interposer et de faire appel de ce genre de décision.
Si appel il doit y avoir, l'affaire sera alors du ressort du tribunal arbitral du sport situé à Lausanne. Un petit mot de handball féminin pour terminer avec la suite de la 24e édition des championnats du monde qui se disputent au Japon. Hier, les représentants africains jouaient leur dernier match de classement. La fortune n'a pas souri aux Sénégalaises qui se sont inclinées 22-18 face au Brésil, ni aux Congolaises battues 29-27 par la Slovénie. Les Congolaises se classent 20e sur 24 équipes, tandis que les Sénégalaises se classent 18e. Quant aux Angolaises, elles ont gagné 30-27 contre l'Argentine et finissent à la 15e place.
Merci Ali, j'espère que vous allez revenir sur cette décision de Lama dans le journal de ce soir.
Écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire. Il faudra voir si la Russie compte intervenir, du moins si les organisations russes comptent faire appel de la décision.
Merci Ali.
L'Afrique qui bouge. Reportage économie.
Au Mali, le tourisme est en berne et si certains persistent à s'aventurer dans les régions du centre en proie aux risques terroristes et aux conflits intercommunautaires, le nombre de touristes a drastiquement chuté depuis 2012 et les acteurs du secteur sont durement touchés.
Depuis Bamako, notre correspondant Paul Lorgerie est allé à la rencontre de certains d'entre eux.
La pirogue de Daouda Badadere, alias Capitaine Diouf, se décroche lentement de son point d'attache. Son béret bleu de l'équipe de France de football vissé sur la tête, il arbore une photocopie du petit futé qui précise « D'ailleurs, sa pirogue ne sillonne pas que Bamako. Partait à la découverte du fleuve sur plusieurs jours avec lui. »
À l'époque, ça allait très bien. On faisait vraiment de longs voyages. À partir du Koulikoro, on partait sur Gou, Mopti, Djéné, au retour jusqu'à Gao, Tombouctou, Gao, on faisait tout ça, on part par la pirogue, on revient par les 4x4.
Dans ce business depuis 14 ans, les voyages avec lui pouvaient durer jusqu'à un mois.
C'est super sympa.
Mais la période dorée est terminée, capitaine.
Tout est vrai, à partir du coup de 2012, à l'époque, c'était la guerre des djihadistes au nord et tout ça. À un moment donné, ils ont commencé à nous interdire Mopti, Tombouctou, Gao, jusqu'à ça vient à Mopti, jusqu'à ça approche petit à petit. Et là, c'est pas qu'à le problème. Ils ont parti vers la centre encore, c'est devenu une guerre ethnique et qui devient de plus en plus pure. Et là, ça a carrément fermé le robinet. Quoi.
Et qui dit robinet coupé dit suppression d'emploi. Au plus fort de son activité, le capitaine Diouf employait jusqu'à 12 personnes pour un chiffre d'affaires oscillant entre 2 millions et 3 millions de francs CFA par mois, soit entre 3 000 et 4 500 euros. Ils ne sont aujourd'hui plus que 4 sur les pirogues, ne travaillent que les week-ends et les militaires, humanitaires ou ambassadeurs ont remplacé sa clientèle qui était alors largement composée de touristes, venus spécialement pour cette croisière sur le Djoliba. Direction Tombouctou, la perle du désert. Après l'occupation par les groupes armés terroristes en 2012, la ville connue pour sa mosquée et ses mausolées a perdu la quasi-totalité de ses touristes. Monsieur Ben Essayouti, chef de la mission culturelle de Tombouctou, pourriez-vous nous dire quelle est la situation du tourisme là-bas?
Au plus bas, parce que vous savez, Tombouctou, c'est une ville qui vit essentiellement de la main touristique. C'est la principale industrie. Il y a un tourisme culturel qui était là. Donc les gens venaient pour voir les sites, les mosquées, les mausolées. Il y a aussi un tourisme de paysage pour les gens qui vont dans le désert. Et tout ça, ça fait vivre l'écrasante majorité de la population. Je pense que la dernière fois qu'on a fait des enquêtes, c'était autour de 75%.
Selon lui, les artisans de la ville tiraient leurs principaux revenus entre novembre et mars, lors de la saison touristique, et faisaient vivre la cité des 333 saints, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais une reconversion s'est alors imposée. Aujourd'hui, l'économie tourne principalement autour de la mission des Nations Unies, la MINUSMA, qui en posant ses valises a aussi créé des emplois. Désormais, pour visiter Tombouctou, il faut se contenter de recherches sur Google. Les photos de la mosquée, des mausolées, sont ponctuées d'images en main d'armes, en raison de la présence des casques bleus et des forces françaises sur place. Mais il y a aussi des posters qui inondent le secrétariat du directeur national du tourisme et de l'hôtellerie, Mamari Diarra. Selon lui, le nombre de touristes internationaux a chuté de 700 000 arrivées en 2012 à 202 000 en 2018.
La situation est difficile à vivre. Imaginez des guides qui pouvaient traiter par an 200 à 300 touristes. Avec un seul touriste, ils gagnaient, comme le président des guides me l'avait dit, donc ils pouvaient gagner 500 000 francs CFA par arrivage. Ils ne connaissaient que ça. Ces guides aussi ont été obligés d'abandonner ça, ces activités-là pour s'adonner à autre chose. Donc ça donne vraiment une certaine frustration au pays d'Ogon ou encore à Mopti, à Tombouctou et même à Gao. Ces zones-là sont sur la ligne rouge, interdites maintenant aux visiteurs internationaux.
D'après ces dires, des internationaux continuent à se risquer au centre du pays. C'est le cas d'un groupe de Chinois il y a 2 semaines ou encore de Russes souhaitant visiter le pays d'Ogon où un conflit intercommunautaire sévit.
Ce n'était pas possible. On a été quand même obligé d'arrêter ces surquis, malheureusement, contre nous.
Pour contourner la ligne rouge, la Direction nationale du tourisme et le ministère souhaitent développer les zones au sud de Bamako, là où l'insécurité menace moins. Mais surtout, l'accent est mis sur le tourisme national, scolaire et universitaire, en faisant la promotion des alentours de Bamako et du sud. Car pour Mamari Diarra...
D'abord, on s'est dit qu'il faut que les Maliens eux-mêmes s'intéressent à la chose touristique. Au niveau de Bamako, alentour, il y a Sélingué, il y a le pays Mandé à côté, il y a l'arche de Kamandjan, il y a Koulikoro, il y a le Yanankoulou. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses à découvrir.
Paul Lorgerie, à Bamako, pour la Deutsche Welle.
Voilà, et nous l'avons appris hier, la Commission européenne a retiré hier de sa liste noire toutes les compagnies aériennes gabonaises à la suite d'améliorations en matière de sécurité aérienne. Et c'est ce qu'on a appris donc de l'Union européenne.
À vous la parole.
C'est le tout premier procès visant un membre de la famille de l'ex-président angolais. Le procès de José Filomeno dos Santos s'est ouvert hier lundi à Luanda.
Et le fils de l'ancien président José Eduardo dos Santos doit s'expliquer devant un tribunal de la capitale angolaise pour des faits de corruption, des faits qui remontent à la période où il était patron du fonds d'investissement souverain angolais. Et nous vous avons donné la parole sur la question. Et Alida Tapsoba vous propose une synthèse de ses réactions.
C'est un poste qu'il a occupé après nomination par son père de 2013 à 2018. Lui et 3 complices présumés, dont l'ancien gouverneur de la Banque centrale de la Guinée équatoriale, Walter Felipe da Silva, sont jugés pour détournement de fonds et blanchiment d'argent. La justice évoque des détournements jusqu'à 1,5 milliard de dollars. De quoi faire réagir les internautes. C'est une très belle initiative de la part de la justice angolaise, lance Sergio de Pulomé. Il souhaite voir pareille initiative se dérouler dans son pays. Il va même jusqu'à baptiser le procès de jugement des descendants. Jean de la RDC pense que c'est un signal fort prouvant combien l'Afrique est déterminée à lutter contre la corruption. Un avis partagé par Abdina de Bamako. Nous pouvons sans doute dire que c'est un progrès pour la justice angolaise, écrit-il. Nous savons qu'il y a plusieurs cas de corruption en Afrique, mais les concernés ne sont pas inquiétés, ajoute-t-il pour conclure. C'est sans doute aussi ce qui fait dire à Bas de la Guinée que pour une question de transparence, tous les responsables doivent rendre compte de leur gestion antérieure. Sekou de Bamako, lui, pense en revanche qu'il s'agit d'une parodie de justice. Enfin, Jensi de Kinshasa joue la carte de la prudence. Tout dépendra, dit-il, des résultats du procès. Il craint un règlement de compte.
En tout cas, Fréjus, nous, on ne craint pas un règlement de compte puisque vous avez le micro pour nous rappeler les titres.
En effet, donc, les grands faits à suivre pour cette journée, la Journée mondiale des droits de l'homme. Le thème de cette année 2019, c'est « Les jeunes défendent les droits de l'homme ». Manifestation aujourd'hui en Guinée, malgré la remise en liberté il y a quelques jours d'opposants. Une des remises en liberté perçue comme un signe d'apaisement. Deuxième jour de séjour à Conakry, d'anciens chefs d'État africains, il s'agit de l'ancien président Nicéphore Soglo du Bénin et de Goodluck Jonathan, l'ancien président nigérian. Et puis la Russie et l'Ukraine tombent d'accord pour observer un cessez-le-feu intégral dans l'est de l'Ukraine. Principale conclusion du sommet quadripartite hier à Paris en présence d'Angela Merkel et de Emmanuel Macron.
Voilà, merci Fréjus pour le rappel des titres. Comme tous les jours, on va donner rendez-vous à nos auditeurs dans notre journal du soir. C'est à partir de 17h30 universel, 18h heure de Cotonou et de N'Djamena. Éric Topona et Fréjus Kenom, on vous souhaite donc une excellente journée.
Tchuss.